Le passage que nous allons commenter se trouve dans le livre de la Sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9. En voici la lecture. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Alors ce livre de la sagesse est très intéressant parce que c'est le dernier livre pour nous catholiques de l'Ancien Testament. Il a été écrit environ 50 ans avant que la naissance du Christ, je veux dire. Alors bon, malheureusement, les juifs et les protestants ne l'ont pas reconnu, tout simplement parce qu'il a été écrit en grec. Alors ce livre, reconnu par les catholiques comme inspiré, est très intéressant si vous lisez, à part quelques chapitres sur l'ivrognerie un petit peu bizarre, il dit des choses de manière, notamment sur la résurrection, d'une manière si explicite, alors que dans le reste de l'Ancien Testament, tout est implicite. Donc il est très très intéressant, il dit des choses clairement, des intuitions, qui n'était simplement que pressenti dans le reste de l'Ancien Testament. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Alors évidemment ici, le passage fait référence à l'Exode avec Moïse, la nuit pascale, vous savez, où les Juifs devaient peindre sur les linteaux comme une croix avec le sang de l'agneau pascal pour que l'ange de la mort passe et ne tue pas les gens qui étaient dans la maison, alors qu'il allait tuer les premiers-nés des Égyptiens. Donc ça fait référence à ce passage. Alors ce que je veux d'abord noter, c'est que le texte dit « La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères ». Alors, quand on se réfère au passage de l'Exode, cette nuit était connue par la parole de Moïse. Rien ne dit que c'était connu très très longtemps à l'avance. Mais ici, l'auteur veut nous dire que la seule façon pour nous de connaître par avance ce qui peut arriver, et encore, ici il ne s'agit pas de faire des boules de cristal et de savoir l'avenir, mais la tendance générale, c'est la lecture de la parole. C'est bien pour ça que les pères savaient ce qui allait arriver, matérialiser cette lecture de la parole par la parole de Moïse dans le livre de l'Exode. Donc, nous sommes invités, si nous voulons savoir, non pas très précisément ce qui va se passer dans notre vie, etc., ou la date de la fin du monde, des choses comme ça, parce que ça, c'est pas la foi chrétienne. Mais si nous voulons savoir la tendance générale, qui est l'espoir et la victoire, seule la parole de Dieu peut nous donner ce regard qui nous montre que l'invisible façonne le visible. Alors, je vous propose d'aller plus avant dans ce texte de manière linéaire. Alors, nous allons prendre, comme souvent, les trois interprétations spirituelles, tout en faisant allusion à l'interprétation littérale, voire historique, mais disons les interprétations spirituelles sont l'allégorie, l'interprétation morale ou anthropologique et l'interprétation anagogique. Je rappelle que l'interprétation historique ou littérale suit le texte sans trop l'interpréter, et s'il y a des précisions historiques, eh bien elles sont faites. Ici, je viens de le faire avec la lecture de l'Exode et la composition 50 ans avant Jésus-Christ du livre de la Sagesse. Je peux simplement rajouter, mais ici ce n'a pas trop de pertinence pour le texte, si ce n'est que ce texte insiste vraiment sur la parole, sur Moïse, sur ce qui fait les traditions juives. On le comprend quand on sait que le livre de la Sagesse a été écrit à une période où l'hellénisme, la culture grecque, venait en force et séduisait beaucoup de juifs. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on comprend vraiment pourquoi l'auteur insiste sur la ruine des ennemis comment dire que la délivrance pascale est déconnue d'avance. C'est pour vraiment insister sur le fait que tout se trouve d'abord dans la parole de Dieu. Pour nous chrétiens, c'est une leçon aussi. C'est d'abord dans la parole de Dieu qu'il faut puiser notre force et notre sagesse. Alors, après, l'allégorie s'est centrée sur le Christ présent dans l'Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et l'anthropologie, c'est cette interprétation intéressante, c'est la vie quotidienne et la vie intérieure, ce qui se passe en nous. Puis l'anagogie, c'est les yeux fixés vers le ciel. Alors, le texte commence par « La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. » Je vous rappelle le contexte, qui est que quand même les Proménéens allaient mourir, que la mort rôdait, et malgré tout, les pères, donc ceux qui allaient partir d'Égypte, étaient dans la joie, malgré les circonstances extérieures plutôt lugubres, où ils ne savaient pas tellement, même si Moïse leur avait dit, ils devaient partir dans la précipitation, d'où les Paasim. Pharaon avait toujours été mal disposé, et bien malgré ces circonstances, la nuit, l'ange de la mort qui passe, ils étaient dans la confiance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la promesse de Moïse, et qui se trouve maintenant dans nos Bibles, ils avaient donc la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut vraiment éclairer notre vie, qui peut lui donner sens, parce que les circonstances extérieures, comme dit Jésus, le Père fait pleuvoir et fait le soleil sur les justes et sur les injustes, et nous sommes, parce que Dieu veut l'homme libre, et il veut nous mettre au cœur du monde, nous sommes comme les autres dans cette vie soumis aux mêmes aléas des circonstances extérieures. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'en profondeur, Dieu est là et donne sens à tout ce qui se passe, notamment parce que ce qui se passe, c'est d'abord dans notre vie intérieure, dans l'invisible de nos cœurs et dans l'invisible tout court. Alors ici, eh bien, on peut comprendre aussi que malgré les circonstances extérieures, par exemple par rapport à nos frères, si nous avons vraiment à cœur d'aimer notre Seigneur, nous voulons bien sûr partager notre joie de l'avoir rencontré pour ami, lui seul qui peut donner un véritable sens à notre vie. Il est appelé le Sauveur parce qu'il peut vraiment nous sauver de nos malheurs en profondeur. Eh bien, nous voyons souvent que nos témoignages, nos églises, tout tombe à plat et tout semble chaotique, notamment dans nos sociétés. Eh bien, la Bible nous dit, la nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Nous savons que c'est une phase et nous savons que malgré les circonstances extérieures, dans l'invisible des cœurs, au cœur de notre société, Dieu travaille. Et nous sommes assurés des promesses, donc, que Dieu aura le dernier mot. Et c'est pour ça que malgré les circonstances extérieures, nous devons être dans la joie, sachant, comme le dit la parole de Dieu en Romains chapitre 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De même, dans nos vies intérieures, parfois nous sommes soumis au chaos de nos pulsions, de nos péchés, et nous avons tendance à baisser les bras. Eh bien, nous devons toujours chanter de joie, assurer que c'est une transition, que Dieu travaille, que certes il faut du temps pour que nos réticences ou celles des autres soient vaincues en toute liberté, c'est pour ça qu'il faut du temps, mais Dieu travaille lentement mais sûrement, sa grâce est là. Et l'exemple même, bien, c'est Jésus qui, dans son ministère terrestre, a rencontré beaucoup d'obstacles, il a rencontré la croix, et pourtant il savait que, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu le sauverait de la mort. Donc Jésus, au cœur de ce qui pouvait sembler un échec, a toujours eu le regard sur la résurrection. Même au jardin de Gethsémani, quand il dit « Éloigne de moi cette coupe s'il est possible », il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne », parce que Jésus savait que Dieu, le Père, peut aller au-delà des apparences. Donc nous avons comme modèle Jésus. Faisons comme lui au cœur de nos ténèbres, que ce soit par rapport aux autres, où le travail de la grâce semble immobile dans leur cœur, par rapport à notre société, par rapport à nos circonstances, par rapport à nos péchés, à notre vie intérieure. Eh bien, ayons ce regard, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que par la parole de Dieu, par la promesse du Christ, nous connaissons d'avance l'issue. Alors, la parole de Dieu continue, et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine des ennemis. Si nous savons nous tenir au calme dans la grâce et l'amour et la prière, eh bien, c'est un moyen bien plus sûr que de paniquer ou d'essayer par la force de changer le cœur de nos frères, ou par la force du poignet par nos seuls efforts qui sont nécessaires. Mais là, je dis par nos seuls efforts, essayer de nous en sortir. Si nous savons être tranquilles, tiens-toi tranquille, dit la parole de Dieu. Si nous savons être tranquilles et laisser faire la grâce, et simplement agir en l'accompagnant comme étant secondaire par rapport au travail de Dieu, eh bien, si nous faisons de la prière la première source de notre victoire, eh bien, nous aurons une victoire bien plus profonde, parce que nous aurons le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. Donc la victoire intérieure sur nos péchés, sur ce qui nous fait mal, sur quand nous voulons amener des gens à Jésus, eh bien, si nous avons amour et prière, c'est le meilleur moyen d'avoir la ruine de nos ennemis et le salut des justes. Car en tout homme, il y a un juste qui sommeille, et en en tous les aspects de notre vie les plus sombres, il y a aussi ce juste qui sommeille. Si nous voulons sa victoire à la ruine des ennemis de ce juste, il nous suffit de prier, de nous laisser guider, d'absorber la force du Christ qui nous donne dans la prière pour après vraiment agir en toute confiance et calmement, sachant que tout ne dépend pas de nous, loin de là, que nous sommes là simplement pour aider le travail de la grâce. Et en même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. C'est toujours la même idée. Dieu travaille, il frappe nos adversaires pour nous donner la victoire. Donc ce que je dis, c'est la prière d'abord, l'action de la grâce qui nous prépare à la victoire. Et nous, nous n'avons qu'à accompagner ce mouvement. Si maintenant nous regardons la vie après la mort, c'est pareil. Cette vie n'est que préparatoire à l'autre vie. Et sachons que dans cette vie, tout n'est pas joué, que ce qui est le plus important, c'est l'autre vie, que parfois nous avons l'impression que jamais nous ne viendrons à bout de tel ou tel péché, que telle ou telle personne sera fermée définitivement à Dieu, qu'il n'y a rien à faire. N'oublions pas que de l'autre côté, Dieu se manifeste avec plus grande puissance et tout ce qui a été fait dans cette vie pour les autres, en intercession, en amour ou pour nous-mêmes, par notre prière et nos efforts, eh bien, va être comme une porte ouverte qui va s'ouvrir de la même manière que sur cette terre. La différence, c'est que la grâce de Dieu sera beaucoup plus intense et ce qui paraissait impossible dans ce monde devient possible dans l'autre. Alors, dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine. Alors d'abord, histoire de sacrifice, vous voyez, dans le secret de leur maison. Avant la victoire, il y a d'abord cette prière intime, cette charité active et discrète qui fait que nous ne pouvons pas toujours témoigner explicitement, mais c'est dans la prière et la charité que se jouent les choses dans le cœur de nos frères avant la grande victoire, que se joue la victoire aussi de la fin des temps dans notre société et aussi en nous-mêmes. Parfois, nous avons l'impression que toujours nous retombons dans les mêmes travers, que les mêmes malheurs nous assaillent, mais c'est dans les moments secrets, comme dit Jésus, dans le secret de sa chambre, dans le secret de la maison, c'est là que se joue tout dans la prière. Et nous, nous avons juste à prier dans le secret de nos maisons, discrètement offrir un sacrifice, c'est-à-dire laisser faire l'amour plutôt que la force, savoir renoncer parfois à certaines actions qui semblent plus immédiates et plus efficaces, par exemple la rancune, répondre, etc., pour regarder plus loin ce travail de l'invisible qui se fait dans le secret des maisons, de nos cœurs, du cœur de nos frères. Eh bien, dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Eh bien, nous sommes appelés à avoir ce regard qui nous montre que tout se joue dans l'invisible des cœurs et que c'est là que se prépare toute chose et que c'est en fonction de ce travail discret de la grâce mais efficace que nous devons modeler nos façons d'agir, nos efforts et nos actions, nos efforts sur nous-mêmes, nos actions par rapport à nos frères. C'est pour ça que nous sommes invités à faire d'abord place à la charité plutôt qu'à la violence, au pardon plutôt qu'à la rancune, sachant que ceci dynamise, si j'ose dire, appuie notre prière, l'accompagne, ouvrant des portes à la grâce par la prière et par nos actions qui vraiment appuient notre prière. Et ils consacrèrent à commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Alors nous sommes invités, effectivement, à certains renoncements à porter sa croix, comme le dit le Christ. Donc, cette loi divine, c'est les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Quand nous prions pour nos frères qui sont loin de Dieu, et que nous les aimons, parfois la réaction n'est pas à la hauteur de nos espérances, ou parfois il y a du rejet, parfois ils ne voient pas, ils rejettent. Si on peut leur parler explicitement de Dieu, ils rejettent ça. Ou alors, même si on ne parle pas explicitement, ils ne semblent pas très ouverts à nos actes de charité. Notre prière semble tomber à plat. Ça, c'est le pire. Mais le meilleur vient aussi. Eh bien, il faut vraiment, d'un commun accord, partager avec ce juste qui est dans le cœur qui sommeille dans le cœur de tout un chacun, partager avec ce juste, avec cette soif de Dieu étouffée en nos frères, le meilleur comme le pire, par la persévérance, ne jamais se décourager malgré les signes extérieurs hostiles. Et même en nos cœurs, c'est pareil, ce juste qui sommeille, cette soif de Dieu qui veut que tel aspect de notre vie soit enfin changé, et rien ne semble changer au début, nous semblons tomber dans les mêmes travers, eh bien continuons à partager le meilleur et le pire, c'est-à-dire porter notre croix par la persévérance, la prière et ne pas se décourager. Et toujours, et ce qui dynamisera nos efforts. Parce que si nous comptons sur nos seuls efforts, quand nous tombons, nous décourageons. Si nous savons que même la chute fait partie du travail de la grâce, où nous montons vers la victoire en dents de scie grâce à la miséricorde de notre Dieu, alors nous sommes persévérants et nous nous relevons et nous partageons le meilleur comme le pire, que ce soit par rapport au travail de la grâce en nos frères, avec ce juste qui sommeille en eux, que nous sommes appelés à épauler par notre charité et notre prière, ou ce juste qui sommeille en nous. Et nous pourrons effectivement entonner déjà les chants de louange des pères, car nous savons grâce à la parole de Dieu l'issue heureuse. Et c'est pareil pour cette vie. Nous avons beau chuter, nous ne sommes pas aussi parfaits que nous le voudrions. Eh bien, continuons à vivre cette vie le plus chrétiennement possible grâce à la prière, sachant que cette vie, bah, c'est le meilleur et le pire, en attendant le meilleur tout court, qui est la vie éternelle, que tout se déroulera vraiment là. Et dès cette vie, nous sommes appelés à vivre déjà la vie éternelle en chantant des louanges des pères malgré des fois les circonstances hostiles ou décourageantes. Et enfin, je voudrais appeler votre regard sur le Christ, car c'est lui qui a vécu le plus pleinement ce que je viens de dire, donc qui, malgré les circonstances, a toujours été persévérant, a guéri, a chassé les démons, a fait du bien, c'est ce que dit Pierre dans les Actes des Apôtres. Il a fait du bien, chassant les démons et guérissant, et pourtant il a terminé sur le poteau de la croix. Et pourquoi a-t-il continué malgré tout, et sur la croix a-t-il pardonné? Parce qu'il savait qu'il y avait la résurrection, et il savait que son amour l'emporterait sur le mal. Et si vous voulez, sa dernière parole sous la croix, hein, sa dernière parole qui est « Entre tes mains, je remets mon esprit » après son cri de désespoir, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, c'est comme ces chants de victoire, de louange des pères. Et Jésus, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, hein, c'est l'épître aux Hébreux qui parle de cette intercession, de même que la première épître aux Corinthiens, du Christ qui est maintenant au ciel, qui continue à soumettre les ennemis du mal en nous et dans ce monde pour l'offrir au Père. Donc le Christ n'est pas là maintenant à se croiser les bras, mais il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, écoutez bien, relisons cette parole, ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, c'est-à-dire nous et Jésus, que les saints, Jésus et nous-mêmes, son Église, partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Jésus se fait solidaire, il descend, son incarnation continue encore de nos jours, où il descend dans le cœur de nos frères, dans nos propres cœurs, là où il y a la fange, l'abysse, l'abîme du mal, tout ce qui fait que nous ne sommes pas encore très saints, loin de là. Eh bien, le Seigneur, d'un commun accord avec nous, avec notre conscience, si nous lui disons librement « Amen », eh bien, il partage nos échecs pour nous donner la victoire. Il nous façonne dès ce monde, il façonne aussi nos frères avec notre aide, notre prière, notre charité, qui fait que nous aussi, nous partageons le meilleur et le pire avec nos frères. Et avec lui, nous pouvons déjà entonner les chants de louange des pères de la résurrection, en ayant la victoire de la conversion de nos frères, la victoire de notre propre conversion de tous les jours, et enfin la victoire de la vie éternelle, quand par la mort, nous nous trouverons devant lui, forts de sa grâce à lui. Donc, soyons toujours conscients que ceux qui consacrent d'un commun accord cette loi divine, nous-mêmes et le Christ et l'Église, que le Christ s'engage à partager aussi bien avec nous le meilleur et le pire, pour déjà nous donner l'espoir qu'il travaille déjà, et que déjà au cœur de la nuit, eh bien, la lumière de sa grâce travaille. Eh bien, soyons forts de cette conviction que le Christ est avec nous, et alors nous nous relèverons de nos échecs, et nous aurons toujours espoir, malgré parfois l'hostilité de nos frères ou les circonstances extérieures qui ne semblent pas bouger. C'est ce que je voulais partager avec vous en ce texte. Comme vous le voyez, les trois interprétations spirituelles dont j'ai parlé, vie éternelle, Christ, et la vie intérieure et quotidienne, s'interpénètrent et s'enrichissent les unes les autres. C'est ainsi que les premiers chrétiens lisaient la parole, et c'est ainsi que la parole peut livrer vraiment toute sa faveur. Alors je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de prier. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, Donne-nous vraiment ce regard en lisant ta parole, que les apparences sont trompeuses et que le monde matériel n'est pas une fin en soi, mais qu'il y a bien dans l'invisible des cœurs, dans l'invisible du ciel, ben, ta grâce qui travaille. Aide-nous à regarder au-delà des apparences, vraiment, pour toujours continuer à prier, persévérer dans la prière et la charité et dans les efforts aussi par rapport à nous-mêmes. Oui Seigneur, déjà maintenant nous entonnons les chants de louange, car nous savons qu'au bout du tunnel, il y a la lumière de ta grâce, que ce n'est qu'une question de temps, mais ta parole nous le dit, la victoire est au bout du chemin. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.